Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien de ce 8 novembre 2017. J'espère que vous êtes en forme. Hélène Denis au micro. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
En forme aujourd'hui?
Mais comme chaque jour, voyons.
Voyons donc vous. Alors on vous écoute dans la chronique éphéméride.
En ce 8 novembre, nous sommes à la Journée internationale de la radiologie. Alors nous saluons chapeau bas tous les radiologues de la province, du pays et du monde.
Pourquoi pas?
Ben oui.
On les salue.
Allons-y. Pourquoi souligne-t-on la Journée internationale de la radiologie? Eh bien, c'est en lien avec un événement historique. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen découvre l'existence des rayons X, lui qui recevra le prix Nobel de la physique en 1901, grâce à cette découverte. Sinon, dans les événements marquants du 8 novembre, on se propulse en l'an 63, donc un peu moins de 2000 ans de notre ère, de notre année plutôt.
Pas en 1963, là.
Non, en 0063. Oh. Alors que Cicéron prononce sa première catilinaire, série de quatre célèbres discours pour attaquer Catilina qui conspirait contre la République romaine. 8 novembre 1519, l'Espagnol Hernando Cortés entre à Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque, et là, il est contraint de retraiter avec ses troupes. Il reprendra en août 1521, donc 2 ans plus tard, la ville qui deviendra Mexico. 8 novembre 1793, à Paris, inauguration du musée du Louvre. 1864, en pleine guerre civile, Abraham Lincoln est réélu. 1923 à Munich, putsch raté d'Adolf Hitler. Il sera arrêté 4 jours plus tard, sera condamné à 5 ans de prison, mais n'en purgera que 9 mois. 8 novembre 1939, dans une brasserie de Munich, une bombe tue 7 personnes, mais, et on revient à l'événement précédent, Adolf Hitler, lui, échappe à cet attentat. Donc, il était derrière un putsch et était la cible d'un autre putsch. 1960, John Fitzgerald Kennedy gagne l'élection présidentielle américaine. 1981, 8 novembre, le train du Nord a perdu le Nord. Des centaines de personnes se retrouvent à Mont-Laurier pour voir partir le dernier convoi de passagers du train du Nord. 1988, George Bush père, oui, vice-président sortant, est élu président des États-Unis. 1989, un premier État américain élit un gouverneur noir, Douglas Wilder, en Virginie, et New York élit un premier maire noir, David Dinkins. 8 novembre 1997, la Chine entreprend la construction du plus grand barrage hydroélectrique au monde en déviant le cours du fleuve Yangtze-Kiang. Donc, on détourne un fleuve, rien de moins. L'ouvrage d'une hauteur de 180 mètres a dû être achevé en 2009. Quelques 150 villes et 4500 villages seront engloutis sous un lac de 600 km de long. On parle d'un déplacement d'environ 1,2 million de personnes oui. ont été déplacées à cause de ce barrage-là. Donc, l'hydroélectricité est une énergie propre, quoique il n'y a pas de source d'énergie vraiment qui est sans effet secondaire.
Des dommages collatéraux importants.
Tout à fait. Donc, 8 novembre 2010, le Québécois Jonathan Duhamel remporte la finale des séries mondiales de poker et un grand prix de 8,9 millions de dollars américains à Las Vegas.
Juste ça.
8 novembre 2016, c'était donc l'an passé. À pareille date, que s'est-il passé en 2016, Hélène?
Ah, vous me posez une question piège. Des élections?
Et oui, c'est en lien avec les élections. Ça fait 1 an aujourd'hui que M. Donald Trump est président des États-Unis.
Comment aurais-je pu oublier? Je me souviens, on était tous sous le choc.
Tout à fait. Nous le sommes encore.
Ah oui, on n'en revient pas encore.
8 novembre, c'est l'anniversaire de naissance de l'astronome Edmund Halley, lui qui est né le 8 novembre 1656. Edmund Halley, on parle bien sûr de la comète de Halley, mais il faut savoir que c'est pas lui qui a découvert la dite comète, mais c'est plutôt lui qui a prédit son retour en disant que les comètes ne sont pas des phénomènes éphémères, mais des astres qui gravitent selon une trajectoire. Également, le 8 novembre 1907, oui, la naissance de l'actrice américaine Catherine Hepburn. Et 8 novembre 1986, ce sera la dernière information de cette petite chronique, le décès du dirigeant soviétique Vyacheslav Molotov.
Ouais.
Molotov, ce nom vous dit quelque chose?
Oui. Cocktail Molotov. C'était pas son prénom, Cocktail?
Pas du tout, mais c'est en lien avec cet individu, avec ce dirigeant soviétique. Alors que pendant la guerre froide, on parle de l'URSS et de la Finlande, quand il clame dans les émissions de radio en 1939 que l'Union soviétique ne bombarde pas, mais plutôt livre de la nourriture aux Finlandais affamés, les Finlandais, eux, commencent à appeler les bombes aériennes soviétiques qui sont larguées sur leur village,
oui,
des paniers pique-niques de Molotov. Alors, ils décident de répondre aux chars d'assaut soviétiques avec des cocktails Molotov. Donc, si les bombes sont des pique-niques, ces engins explosifs sont des cocktails Molotov. Et c'est ainsi. Donc, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais c'est eux qui l'ont bien nommé.
Bravo, merci pour ce cours d'histoire express.
Avec plaisir.
À la une de la presse, enquête, section art, humiliation sur les plateaux, attouchements, bloopers à caractère sexuel, commentaires grivois, travailler avec Sylvain Archambault, réalisateur de films et de séries à succès comme Les Pays d'en haut et Mensonges, peut être traumatisant, selon les témoignages d'une vingtaine de personnes ayant tourné avec lui. Toujours en art, le nouveau festival d'humour n'entend pas à rire. Exclusif pote au volant, ce sera tolérance zéro au Québec. Une autre exclusivité de la presse, demandeur d'asile, Ottawa se prépare à une seconde vague. Humiliation sur les plateaux, c'est une enquête signée Stéphanie Vallet et Katia Gagnon. Milieu de travail hostile, humiliation, bloopers à caractère sexuel, attouchement. La presse a recueilli une vingtaine de témoignages de comédiens et membres de l'équipe technique ayant travaillé sur les plateaux de tournage du réalisateur Sylvain Archambault au cours des 20 dernières années et qui ont mené à plusieurs interventions de l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son, ACTIS, des comportements exacerbés par la consommation d'alcool du réalisateur jugé inacceptable par ses productrices, Fabienne Larouche et Sophie Deschênes. La scène tournée sur le plateau de Mensonges 4 en octobre dernier ne devait durer que quelques secondes. Une comédienne jouant une policière devait placer un vibromasseur dans la petite culotte d'une autre actrice, puis se faire réprimander par une collègue. Sortant totalement du scénario et du caractère du personnage, le réalisateur Sylvain Archambault a demandé à la comédienne de simuler la jouissance jusqu'en tomber sous la table. « Gâte-toi, ma cochonne », lui a-t-il lancé dans son micro devant toute l'équipe. « J'ai fait le saut en entendant le réalisateur crier « T'as voulu être actrice? Ben fais-le », se rappelle un technicien. La scène nous a été racontée par trois témoins présents ce jour-là. Et il y a toutes sortes d'autres exemples. Sylvain Archambault réagit. Mon humour de mon oncle, mettons que j'ai tué mon oncle. Mon oncle est mort. Après 50 minutes d'entrevue, Sylvain Archambault l'admet. Les équipes sur ces plateaux et les comédiens ont pu parfois mal interpréter ses intentions et ses propos en cours de tournage. Sera-t-il plus prudent à l'avenir? Oh mon Dieu, plus prudent? J'ai eu une leçon énorme, moi. Je ne pensais pas que ça choquait autant de monde. Je ne veux plus jamais rencontrer des gens comme vous, s'exclame le réalisateur à l'intention des journalistes de la presse. Le gouvernement Trudeau se prépare à une deuxième vague de migrants désirant franchir la frontière canado-américaine de manière irrégulière dans la foulée des nouvelles directives en matière d'immigration données par les États-Unis. Lundi, l'administration Trump a annoncé qu'elle ne renouvellerait pas le permis de résidence spéciale aux États-Unis, TPS, le Temporary Protected Status, pour environ 2500 ressortissants du Nicaragua qui se trouvent aux États-Unis depuis près de deux décennies. Ces ressortissants devront quitter les États-Unis dans un délai de 14 mois, soit au plus tard en janvier 2019. Selon nos informations, les autorités américaines ont prévenu le gouvernement Trudeau de cette mesure afin qu'il puisse prendre les dispositions qu'il juge appropriées pour assurer la sécurité à la frontière. Le département américain de la sécurité intérieure s'est engagé à donner un tel préavis au Canada à l'avenir, comme l'a réclamé le ministre de la sécurité publique, Ralph Goodell, quand il a rencontré Ellen Duke, responsable par intérim du département de la sécurité intérieure, à l'occasion d'une réunion ministérielle du G7 en Italie le mois dernier. L'administration Trump devra aussi prendre une décision sous peu concernant quelques 300 000 ressortissants d'Amérique centrale et d'Haïti qui bénéficient du même permis de résidence spéciale depuis plusieurs années. Alors, je poursuis. Au cours des dernières semaines, l'Agence des services frontaliers du Canada a fait installer des pancartes sur les divers chemins irréguliers empruntés par les migrants pour franchir la frontière loin des postes frontaliers pour les aviser qu'ils seront arrêtés sur le champ. Arrêtés, écrit en lettres majuscules, il est illégal de passer la frontière ici ou ailleurs qu'à un point d'entrée. Vous serez arrêtés et placés en détention si vous passez ici, est-il écrit sur ces pancartes du gouvernement du Canada. Selon nos informations, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodell, a insisté auprès de son homologue américaine, Ellen Duke, lorsqu'il s'est entretenu avec elle à la rencontre ministérielle du G7 en Italie en octobre, que les États-Unis devaient exercer un meilleur contrôle sur les visas qu'ils délivrent à certains ressortissants, car environ 45 % des demandeurs d'asile qui sont entrés au Canada de manière irrégulière au cours des derniers mois s'étaient vus accorder un visa de séjour aux États-Unis. Québec lance les démarches pour taxer Netflix, qu'Ottawa le veuille ou non, a appris la presse. Dans une lettre envoyée hier à son homologue fédéral, Bill Morneau, le ministre québécois des Finances, Carlos Letao, l'avise de son intention d'imposer la TVQ sur les abonnements à ce géant américain de la diffusion en ligne. Il propose à Ottawa de revoir sa position et d'imposer lui aussi sa taxe de vente aux services immatériels offerts par un fournisseur étranger comme Netflix. Au volant vers la tolérance zéro au Québec. Ce sera tolérance zéro pour le cannabis au volant. Le projet de loi qui sera déposé tout prochainement à l'Assemblée nationale prévoit qu'un conducteur pourra être intercepté dès qu'il présente un niveau de THC, d'eslam, dans sa salive, susceptible d'affecter ses facultés. Santé Canada a informé le ministère québécois de la Santé qu'on croyait pouvoir mettre au point d'ici juillet 2018, date d'application de sa loi, un appareil fiable pour détecter le taux de THC, l'ingrédient actif du cannabis, dans la salive. Québec pourrait éventuellement s'arrimer avec la norme fédérale, convient-on. « Québec prend bonne note des ambitions de la nouvelle mairesse de Montréal en transport en commun, mais prévient qu'il ne pourra pas financer tous les projets. Valérie Plante reconnaît qu'elle devra faire ses devoirs pour convaincre les gouvernements de financer sa ligne rose. Questionné sur l'échéancier pour réaliser la ligne rose, Martin Coiteux a indiqué qu'il était prématuré de répondre. Il a insisté sur le fait que deux projets majeurs étaient déjà en branle, soit le réseau électrique métropolitain et le prolongement de la ligne bleue vers Anjou. Et si les prolongements des lignes jaunes et oranges sont aussi sur la table, le ministre a ouvert la porte à d'autres projets. Oui, il y a des projets qui existent, mais il peut y en avoir d'autres. Rien n'est écarté, a dit Martin Coiteux. Il a dit comprendre l'enjeu soulevé en campagne par Valérie Plante, qui souhaite désengorger le réseau de métro. Il faut trouver les meilleures solutions pour que davantage de gens prennent les transports en commun.
On vient d'entendre la nouveauté de la formation Les Hey Babies. Ça s'intitule « Laisse-le pas te laisser ».
À la une du Devoir de ce 8 novembre 2017, première contestation judiciaire de la loi sur la neutralité religieuse, Marie-Michèle Lacoste, qui se fait maintenant appeler Varda Nelly, conteste devant les tribunaux la loi québécoise sur la neutralité religieuse, alors qu'on voit une photo d'elle qui porte le voile intégral. Pour rire encore un peu, beaucoup ensemble, les humoristes créent leur propre festival et adoptent une formule coopérative. Bande dessinée, le fantasme assouvi avec extase au pluriel, Jean-Louis Tripe se met à nu pour parler plaisir, politique et émancipation. Leonard Cohen, du haut de sa tour, une murale en hommage à l'artiste a été inaugurée mardi. L'œuvre est peinte sur les 21 étages du 1420 rue Crescent. Transport après l'américaine Uber, voici venir l'estonienne Taxify. Et économie, la hausse des salaires finira bien par s'accélérer, dit Steven Poloz. Sera finalement pris moins de 3 semaines. La première contestation judiciaire de la loi québécoise sur la neutralité religieuse de l'État a été déposée en cour supérieure mardi, 19 jours après la sanction officielle de la pièce législative controversée. Le Conseil national des musulmans, l'Association canadienne des libertés civiles et la citoyenne Marie-Michelle Lacoste deviennent les premiers à contester la loi, qui porte gravement atteinte à la liberté de religion et au droit à l'égalité de certaines femmes musulmanes du Québec, selon la requête basée sur les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises. La poursuite réclame le sursis provisoire de l'article 10 de la loi, qui requiert la prestation et la réception de services à visage découvert, d'ici à ce que l'affaire soit entendue sur le fond. « Oui, je vais défendre le projet de loi », a déjà annoncé la ministre de la Justice Stéphanie Vallée. Selon nos informations, d'autres groupes ne tarderont pas à rejoindre le mouvement de contestation. La loi discrimine certaines musulmanes, disent les plaignants. À Ottawa, la ministre de la Justice laisse aussi la porte ouverte à une intervention du fédéral dans le dossier. Jody Wilson-Raybould a déclaré que le fédéral était au courant de la requête et qu'il était en train de l'étudier attentivement. Un regroupement d'humoristes comprenant plusieurs têtes d'affiches du Québec crée le Festival du rire de Montréal, le FRM. La première mouture du nouvel événement prendra l'affiche à l'été 2018, promettent les artistes, y compris avec un volet de rue gratuit. Le FRM se présente comme une conséquence de la crise engendrée par les accusations d'agression et de harcèlement sexuel visant Gilbert Rozon, président fondateur du Festival Juste pour rire, le plus grand du genre au monde. On ne veut plus d'histoires comme celles entendues depuis des semaines, des histoires de harcèlement, d'intimidation et de manipulation de la part de gens qui profitent de leur pouvoir pour manipuler les autres, explique au Devoir Réal Bélan, membre fondateur du FRM. On veut donner l'exemple. Le communiqué, comme la vidéo diffusée mardi matin, parle de responsabilité sociale et d'équité salariale, du respect des artisans, des artistes et du public. La liste des fondateurs comprend déjà plus de 30 noms, dont Adib Al-Khalidé, Jean-Michel Anctil, François Bellefeuille, Lise Dion, Jean-François Mercier, Mike Ward et Réal Bélan. Montréal se retrouve donc avec 2 festivals de l'humour, le Festival Juste pour rire ayant annoncé mardi soir qu'il aurait lieu l'été prochain. Notre équipe travaille à offrir à nos festivaliers un festival 2018 extraordinaire, et nos partenaires continuent de nous soutenir dans la planification de ce qui sera notre 36e édition, dit le communiqué de l'entreprise. La déclaration rappelle que le fondateur Gilbert Rozon a quitté l'organisation. La déclaration rappelle que le fondateur Gilbert Rozon a quitté l'organisation et que ses actions sont en vente. Le regroupement des humoristes collaboratifs sera organisé autour de 2 entités, comme le Festival Juste pour rire, un organisme sans but lucratif et une compagnie de production de spectacles visant des profits, mais qui seront redistribués en parts égales entre les membres ou à la relève. Les noms de partenaires d'affaires devraient être dévoilés à l'émission d'ICI Radio-Canada « Tout le monde en parle » dimanche. Trois jours après sa défaite, Denis Coderre s'adressera aux médias mercredi, donc aujourd'hui, pour faire le point sur sa défaite de dimanche à la mairie de Montréal. De l'aveu même de Lionel Pérez, réélu dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce avec l'équipe de Denis Coderre, la campagne du parti du maire sortant a été catastrophique. Équipe de Nicodère a mené une campagne désastreuse, estime Lionel Pérez dans un message publié sur Facebook mardi. L'ex-membre du comité exécutif de l'administration Coderre y décrit les erreurs stratégiques commises par l'équipe de campagne du maire sortant. Notre plateforme n'était pas inspirante et elle nous a contraints à répéter ce que nous avions déjà réalisé ou annoncé. Nous n'avons pas présenté une vision qui aurait permis de rêver à un avenir meilleur, écrit Lionel Pérez. Selon lui, le parti a fait l'erreur de croire que le bilan incroyable de l'équipe serait suffisant pour remporter les élections. La candidate des Fêtes à la mairie de Québec, Anne Guérette, a annoncé mardi qu'elle quittait la politique, un départ qui survient 10 ans après ses débuts en politique comme conseillère municipale. « Je pars la tête haute », a déclaré Mme Guérette lors d'une conférence de presse dans le hall de l'Hôtel de Ville. Celle qui fut conseillère municipale pendant 3 mandats en Haute-Ville avant d'être candidate à la mairie a défendu avec une ardeur particulière les dossiers patrimoniaux et la démocratie locale, en particulier les conseils de quartier. « Chers citoyens, vous êtes ce que j'ai vécu de plus beau dans cette aventure », a-t-elle déclaré des sanglots dans la voix. Le maire Labombe, qui a pourtant peu ménagé Mme Guérette ces dernières années, a eu de bons mots pour elle mercredi. Parlant de sa contribution remarquable de plus de 10 ans à la démocratie municipale de Québec, il a évoqué dans un communiqué sa passion et son dévouement. La fin attendue de la version papier de la presse incite TC Transcontinental à fermer une usine qu'elle avait construite en 2003, principalement afin d'imprimer ce quotidien. Cette décision annoncée mardi touche 60 personnes. Certains travailleurs pourront y être transférés ailleurs, mais il y aura néanmoins des pertes d'emplois, a indiqué la société sans en préciser le nombre. Et toutes les options, y compris la vente de certaines activités, sont sur la table dans le but de relancer Page Jaune, prévient le nouveau président et chef de la direction de l'entreprise, David Eckert. L'entreprise n'a pas vu ses revenus croître depuis 2008. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester avec nous. La suite de l'émission dans quelques secondes. À travers les branches.
Une autre nouveauté ce matin, on vient d'entendre l'auteur, compositeur, interprète Charles-Antoine Gosselin avec une pièce qui, ma foi, me parle beaucoup. Ça s'intitule « L'hiver arriverait en retard ».
En une du Journal de Montréal, 10 000 pieds carrés du jamais vu au Québec, une usine à drogue. Et l'autre nouvelle qui fait la une, formule électrique, citation, « Les dés étaient pipés », dit un promoteur écarté pour Evenco. La Sûreté du Québec démantèle depuis près d'une semaine l'un des laboratoires clandestins de production de méthamphétamine les plus crasseux et les plus importants jamais vus dans la province, qui a été découvert dans une vieille porcherie près de Victoriaville. « C'est le labo le plus insalubre que j'ai vu dans ma carrière », a déclaré sans hésiter au journal Mario Fournier, lieutenant à l'escouade nationale de répression sur le crime organisé et spécialiste en démantèlement de laboratoires de drogue de synthèse à la SQ. L'enquête visant une immense porcherie de 10 000 pieds carrés du 10e rang à Saint-Valère s'est amorcée le mois dernier grâce à une information du public. Jeudi dernier, une poignée d'enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour perquisitionner ce qu'ils croyaient être une serre hydroponique de cannabis. Or, une fois à l'intérieur, les policiers ont rapidement compris qu'il s'agissait plutôt d'un laboratoire clandestin de drogue, de synthèse, contenant des produits hautement volatiles. Éric Lemire, 40 ans, a été arrêté alors qu'il était vraisemblablement en train de fabriquer de la méthamphétamine, selon nos informations. Peu de temps après, le propriétaire des lieux a également été arrêté. Tout comme son présumé complice, André Remy, 67 ans, fait face à des accusations de production de stupéfiants et de méfaits pour avoir rendu un bâtiment dangereux pour la population environnante. Le duo demeure détenu. Un promoteur écarté, Alexandre Choco, voulait organiser la course de formule électrique à Montréal. Un homme d'affaires montréalais dit avoir été écarté de l'organisation de la course de formule électrique au profit du promoteur Evenco qui a obtenu le contrat sans appel d'offres. Alexandre Choco s'est rendu à Miami et à Monaco en 2015 pour rencontrer les dirigeants de la Formule E. Il a même signé une première entente avec la Formula E, Holding, et avait reçu l'appui de l'Association des véhicules électriques du Québec pour organiser une course à Montréal dès septembre 2016. À Monaco, on a signé notre entente et il me présentait comme le promoteur de Montréal, dit celui qui a également organisé des événements avec l'ex-boxeur Mike Tyson. Il a commencé à approcher des partenaires potentiels et à discuter avec une firme pour faire une étude de pré-faisabilité. Un site web a également été créé. À l'époque, il envisageait 4 sites pour la course, sur une section du circuit Gilles Villeneuve dans le Vieux-Port, au Mont-Royal et au centre-ville dans le secteur de McGill College. « Je rêvais d'une sorte de festival qui ferait également la promotion des véhicules électriques », dit-il. L'événement aurait porté le nom de Festival E-Motion ou E-Motion. Si les discussions semblaient bien entamées avec différents partenaires, il dit avoir eu de la difficulté à obtenir la collaboration de la mairie de Montréal. Il s'est rendu en personne déposer son dossier au greffe de l'hôtel de ville en mai 2015, après avoir tenté sans succès d'avoir une rencontre avec le maire. On lui a indiqué que le maire voulait conclure les discussions sur le projet avant de rencontrer de potentiels promoteurs. En juillet, il dit avoir croisé le maire de Nicodère lors de l'inauguration de la maison olympique. Il en a profité pour lui demander une rencontre concernant la Formule E. Même si la réponse lui semblait positive, il n'a jamais reçu l'appel du bureau du maire. Douze ans de prison réclamés pour l'ex-coach de ski. La Couronne réclame 12 ans de détention pour l'ex-coach Bertrand Charest, alors que ce dernier aimerait plutôt faire des conférences dans les écoles en guise de sentence pour avoir agressé sexuellement 9 jeunes skieuses. « Il vit dans une autre réalité », a insisté maître Caroline Lafleur de la Couronne hier. quelques mois après avoir été reconnu coupable d'agression et de contact sexuel sur 9 jeunes skieuses dont il était l'entraîneur dans les années 1990, Bertrand Charest nie toujours avoir commis ces crimes. Il a d'ailleurs porté le verdict en appel. La famille libérale fédérale serre les rangs pour protéger le grand argentier du parti, Stephen Bronfman, qui aurait trempé dans un stratagème visant à placer des millions dans un paradis fiscal. M. Bronfman n'a rien fait de mal, a défendu hier le député montréalais et avocat Nicolas Dilorio. Il n'y a pas un seul riche Canadien qui ne diversifie pas ses avoirs à l'étranger. Selon une enquête journalistique internationale, Stephen Bronfman et l'ex-sénateur libéral Leo Kohlberg aurait collaboré pour cacher du fisc canadien 60 millions de dollars US aux îles Caïmans, où le taux d'imposition est de 0 %. M. Bronfman a vite nié ces allégations qui sèment la controverse depuis dimanche, disant avoir toujours respecté la loi, y compris celle en matière fiscale. Dans les couloirs du Parlement, les députés libéraux ont insisté sur la nature légale des activités offshore du proche de Justin Trudeau. Si voler un magasin était légal, mettre plus de policiers devant la porte ne changerait strictement rien. C'est exactement la même chose avec les paradis fiscaux. On se fait voler, mais c'est légal, a illustré le néo-démocrate Alexandre Boulris. Le bannissement des sacs de plastique prévu pour 2018 à Montréal ne serait pas avantageux, selon une étude préliminaire de Recyc Québec, dans une lettre envoyée à la nouvelle ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, dont le 24 heures a obtenu copie. L'Association canadienne de l'industrie du plastique cite des extraits du rapport d'études préliminaires de Recyc Québec qui stipule qu'il serait préférable de ne pas bannir les sacs de plastique que la plupart des commerces donnent à leurs clients. Selon les conclusions de l'étude retranscrite dans la lettre, aucune option de remplacement des sacs de plastique mince, soit les sacs réutilisables ou les sacs en plastique épais, ne serait plus rentable au niveau environnemental ou économique. Dans ce contexte, le bannissement ne serait pas avantageux, peut-on lire dans la lettre. Ces données confirment ainsi ce que le Journal de Montréal rapportait en août dernier, affirmant que l'étude stipule que le sac de plastique mince utilisé dans la plupart des commerces n'est pas plus nocif pour l'environnement que d'autres sacs. Aucune conclusion ne sera dévoilée avant la publication de l'étude. Il faut être prudent à diffuser des passages qui viennent de l'industrie. On ne peut pas en venir à des conclusions de la sorte, dit Alexander Guerra, porte-parole de Recyc Québec. Qu'adviendra-t-il du nom d'équipe de Nicodère pour Montréal maintenant que son chef a quitté son poste après sa lourde défaite aux élections municipales de dimanche? À quelques heures d'une conférence de presse au cours de laquelle l'ex-maire fera le point sur la débâcle de son parti, plusieurs experts interrogés par le journal estiment que la survie de sa formation politique n'est pas menacée. Le nom, c'est du cosmétique. À l'avenir, on parlera de l'opposition à l'Hôtel de Ville et non plus de l'équipe de Nicodère, estime Florent Michelot, professeur en sciences politiques à l'UQAM. Pour lui, l'essentiel est que le parti n'a pas de grosses dettes et a de nombreux élus. Les élus du parti doivent en premier lieu décider s'ils continuent de travailler ensemble et ensuite se trouver un chef, dit de son côté Pierre Guillot Urtubise, associé principal dans la firme de relations publiques Octane. De Nicodère, qui a déjà fait savoir qu'il quittait la politique municipale, devrait dresser aujourd'hui le bilan de sa campagne qui a mené à une déroute inattendue sans pour autant désigner de successeur. Sa conférence de presse est prévue pour 11 heures ce matin. Et pour terminer, amende salée pour le cellulaire au volant. Le nouveau ministre des Transports va s'y attaquer. Le nouveau ministre des Transports, André Fortin, promet de moderniser rapidement le code de la sécurité routière pour que le Québec cesse d'être la province la moins sévère en matière de cellulaire au volant.
Tu es l'excès et la faille, un éclat sarcelle dans la grisaille. Tu as la beauté de l'âme quand l'aurore s'effondre sous trop de néon. Et je sais que les mots
encore une nouveauté, Nini Marcel, je loge à ton enseigne.
Une photo frappante dans le Journal de Montréal. Il est plutôt rare de voir des hommes se promener en talons roses et encore plus au Parlement. C'est ce que des députés de tous les partis ont fait hier pour montrer leur appui à la lutte contre la violence faite aux femmes. Parmi eux, le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, s'est déplacé pour la prise de photos. La ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, appuyée par celle de la condition féminine, sont derrière cette initiative. La campagne « Espoir en talons hauts » est née à Burlington, en Ontario, dans la circonscription de Mme Gould. Depuis, elle a été répétée un peu partout au Canada. Alors, on voit beaucoup d'hommes en talons hauts roses. Et Jean-Sébastien me faisait remarquer que la dame qui figure sur la photo porte, oui, un chapeau rose, mais des talons hauts bruns. Dans la section pause plein air, à l'aventure pour contrer les problèmes psychosociaux, c'est Marie Tison dans la presse. L'être humain moderne se coupe de plus en plus de l'environnement naturel. Selon certaines théories, on a développé une tendance à l'anxiété et à la dépression parce qu'on s'est trop éloigné de notre milieu naturel, indique Virginie Gargano, doctorante en services sociaux à l'Université Laval et chargée de cours. Le parallèle est peut-être un peu fort, mais c'est comme si on était un animal dans une cage. Selon ces théories, se replonger dans la nature permettrait de diminuer les symptômes liés à l'anxiété et à la dépression chez les personnes qui ont des problèmes psychosociaux, ajoute-t-elle. C'est une des idées qui sous-tendent l'organisation d'expéditions en pleine nature pour des clientèles qui vivent diverses difficultés, comme des personnes souffrant de maladies mentales ou des jeunes blessés par la vie. Cela fait une quinzaine d'années que Virginie Gargano travaille au sein de programmes d'intervention en nature et aventure. Elle a notamment cofondé une coopérative de solidarité qui se spécialisait dans de tels programmes. À force de faire des programmes avec des jeunes, je me suis dit qu'il faudrait peut-être aller plus loin pour mieux comprendre les effets de la nature et de l'aventure sur le plan empirique, raconte-t-elle. J'ai fait une maîtrise dans ce domaine-là et maintenant, je termine mes études doctorales. Ces programmes ont divers effets positifs sur le plan personnel, comme l'augmentation de la confiance et de l'estime de soi et l'acquisition de compétences techniques. Mais le point fort de ces programmes, c'est l'acquisition de compétences interpersonnelles, affirme Mme Gargano. Les gens n'ont pas le choix, ils doivent s'aider. Ils sont en interdépendance en raison de la nature des activités. Par exemple, on ne peut pas monter une tente de type protecteur tout seul, dit Virginie Gargano. Ces activités permettent de développer des habiletés de communication, de leadership et de socialisation, souligne-t-elle. Les programmes d'intervention en contexte de nature et d'aventure sortent les participants de leur milieu habituel, ce qui est déstabilisant tant sur le plan physique qu'émotif. Les repères ne sont plus là, déclare Mme Gargano. La seule façon de recréer une stabilité, c'est de le faire avec les pairs avec qui on vit cette expérience. Si l'être humain moderne s'éloigne de plus en plus de la nature, il tend aussi à avoir moins besoin des autres. Je pense qu'on a besoin de s'associer les uns aux autres, affirme Mme Gargano. Le fait d'être en groupe est un besoin fondamental. Je crois que les expéditions nous relient de façon naturelle à ces besoins fondamentaux. Ces expériences permettent aussi de revenir à l'essentiel. Se nourrir, s'abriter. Quand on réussit à survivre, on peut vivre et avoir du plaisir ensemble. Tout redevient plus simple. Mais voilà, les programmes d'intervention n'ont pas tous la même efficacité. Il faut bien connaître les caractéristiques individuelles des participants pour leur offrir un défi à leur mesure. On ne peut pas offrir les mêmes défis aux adolescents qui ont un problème d'anxiété et aux jeunes toxicomanes qu'aux cégepiens sans problème particulier. On peut penser que les jeunes de la rue qui ont souvent été marginalisés n'ont pas une estime de soi aussi élevée que les autres jeunes, nomme Mme Gargano. Si j'essaie de leur faire escalader une paroi beaucoup trop difficile, c'est contre-productif parce que je leur montre qu'ils ne sont pas capables de réussir quelque chose. De même, si la paroi est beaucoup trop facile, le jeune n'en tirera pas de bénéfice. Il n'aura pas eu de déstabilisation, il n'aura pas eu cette douce incertitude qui survient lorsqu'on n'est pas certain de réussir. Il y a encore du travail à faire pour bien évaluer les résultats de ces programmes, indique Mme Gargano. L'objet de ma thèse, ce n'est pas vraiment de reconnaître les bénéfices qui sont déjà répertoriés, mais d'identifier les processus mis en place, les ingrédients actifs qui font en sorte que les programmes soient bénéfiques. Aux États-Unis, les programmes d'intervention en contexte de nature et d'aventure, chapeautés par quelques grandes organisations nationales, sont de plus en plus populaires. Or, ce sont souvent les parents qui payent pour les expéditions de leurs enfants. C'est une certaine couche de la société qui a accès à ces programmes-là, observe Mme Gargano. Ils peuvent donc être inaccessibles pour les gens qui en ont le plus besoin. Au Québec, ces programmes organisés par des groupes communautaires ou des organisations comme Face au vent ou la Fondation Sur la pointe des pieds sont généralement gratuits. Le système québécois permet de faire en sorte que les gens qui ont moins de sous puissent bénéficier de ces programmes, indique Virginie Gargano. Par contre, ce n'est pas facile de trouver le financement. Certains groupes communautaires devront attendre 2, 3 ou 4 ans avant de dégager les fonds nécessaires. On s'entend que les groupes communautaires, avant d'offrir un programme de plein air, vont payer leurs intervenants réguliers, dit Virginie Gargano. Heureusement, une expédition n'a pas besoin d'être grandiose pour avoir des effets bénéfiques. Si on parle de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, ce n'est pas nécessaire de partir vers l'Everest pour les déstabiliser et leur faire expérimenter la prise de risque, affirme Mme Gargano. Je peux aller 5 ou 6 jours dans les monts Valin ou les Chic-Chocs pour leur faire connaître le défi et le succès. Montréal sera un peu au centre du monde des interventions en contexte de nature et d'aventure cette semaine, puisqu'il accueillera la conférence annuelle de l'Association de l'éducation expérientielle et le Symposium canadien de la thérapie par l'aventure. Le chiffre de la semaine, 107 $, c'est la somme moyenne que dépensent annuellement les randonneurs québécois pour s'habiller et s'équiper. C'était donc une chronique plein air signée Marie Tison. La gigantesque murale rendant hommage à Leonard Cohen, qui a été peinte sur la façade d'un bâtiment de la rue Crescent à Montréal, a été inaugurée officiellement hier. Cette 100e murale de l'organisme MU est la plus grande qui n'ait jamais été réalisée dans la métropole. S'étendant sur un mur de 11 000 pieds carrés, la murale a été réalisée par une quinzaine d'artistes dirigés par l'Américain L. Mack et le Montréalais Gene Pandon. Plus de 2000 heures de travail ont été nécessaires pour compléter l'œuvre. Orientée vers le nord, la murale est visible à partir de nombreux points de la ville, incluant le belvédère du Mont-Royal, faisant face au sud et au centre-ville. Les artistes de MU ont transposé sur la brique une photo de Leonard Cohen prise par sa fille Lorca en 2008. « Nous sommes profondément touchés que la ville de Montréal ait permis de réaliser ce magnifique et très réaliste portrait de notre père, a commenté la famille Cohen. Is it still raining? Back in November, the lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone who could love you forever? Was it ever said? Was it? Le Conseil canadien des normes de radio-télédiffusion, CCNR, considère que le mot FUCK, je n'ose pas le prononcer, n'a pas une connotation aussi vulgaire lorsqu'il est prononcé à la radio francophone en comparaison avec la radio anglophone. À la suite de 2 plaintes déposées contre la station montréalaise C'est quoi, le CCNR a conclu dans une décision publiée hier que le diffuseur n'avait pas enfreint le code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, ACR, en passant en onde un extrait dans lequel on entendait Madonna prononcer le mot FUCK à la marche des femmes et un autre où le chanteur de Green Day se servait également du terme lors d'un concert. Le Conseil canadien des normes de radio-télévision a statué que, pourvu que le mot soit utilisé avec parcimonie, et ne servent pas à insulter une personne en particulier, il a été déterminé qu'il serait considéré comme acceptable dans les émissions de langue française. Alors, c'est toujours Hélène Denis qui vous accompagne et à venir à l'émission Les actualités internationales, les actualités culturelles et aussi la tournée des journaux régionaux. Restez avec nous et je ne prononcerai pas le mot FUCK.
È una piccola fortuna che avevo raccolto. Era tutto in pianto sul bordo d'un fosso. Quando mi ha visto passare si è messo a gridare: signore, raccoglietemi, da voi portatemi via. I miei fratelli mi hanno dimenticato, sono caduto, sono malato. Se non mi cogliete io morirò, ma che ballata. Mi parrò piccolo e tenero, sottomesso io ve lo giuro. Signore, vi prego, liberatemi dalla tortura. Ho preso la mia fortuna, l'ho messa sotto i miei stracci. Ho detto non deve morire, vieni nella mia casa. Allora la piccola fortuna ha fatto la sua guarigione. Sul bordo del mio cuore ci stava una canzone. Giorni, notti, pene, lutti, male fu dimenticato. Mia vita disfaccendato, avevo disgusto per ricominciarla. Quando pioveva fuori, che i miei amici mi facevano pena. Prendevo la mia fortuna e dicevo sei mia regina. La mia fortuna è fiorita, ha fatto delle gemme. Era il paradiso, ci vedeva sulla mia fronte. Ma una bella mattina che fischiavo sto ritornello, la mia fortuna è partita senza neanche darmi la mano. Volevo supplicarlo, coccolarlo, farci delle scene, farci vedere il grande buco che lasciò nel mio cuore. Se ne andava testa alta, senza gioia, senza odio, come se non poteva più vedere il sole a casa mia. Ho ben pensato a morire di dolore e di noia. L'avevo smesso di ridere, era sempre la notte. Mi rimaneva l'oblio, mi rimaneva il disprezzo. Insomma mi son detto, ancora ho la vita. Ho ripreso il mio bastone, lutti, pene e i miei stracci. E batto la mia suola nei paesi sfortunati. Oggi quando vedo una fontana, una ragazza, faccio una grande deviazione. O chiudo anche i miei occhi, faccio una grande deviazione. O chiudo anche i miei occhi.
Signor Marco Cagliari, le petit bonheur.
Actualité internationale. Le tueur du Texas avait été interné dans un centre psychiatrique. Devin Kelly, qui a tué dimanche 25 personnes dans une église du Texas, avait été interné dans une clinique psychiatrique alors qu'il était militaire, après avoir menacé de tuer ses supérieurs, ont indiqué mardi des médias américains. Kelly, à l'époque caporal, accusé de violence contre sa femme et son beau-fils, avait été arrêté dans la gare routière de El Paso, en juin 2012, selon un rapport de police publié sur le site Internet de la chaîne locale KPRC de Houston. Il venait de s'échapper d'une clinique de Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, à une vingtaine de kilomètres de là où il avait été interné pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de ses supérieurs. Personnes qui tenaient des propos islamistes inquiétants sur les réseaux sociaux ont été arrêtées mardi en France et en Suisse, une opération liée à l'arrestation cet été d'un adolescent qui voulait mener un attentat au couteau en France. Ces suspects, 9 hommes et une femme âgée de 18 à 65 ans, participaient à un groupe de discussion de la messagerie cryptée Telegram prisée des djihadistes. Cette opération antiterroriste menée en France par la sous-direction antiterroriste en COSESIN avec la Direction générale de la sécurité intérieure vise à permettre de préciser les contours des projets qu'il nourrissait, a ajouté une source judiciaire française. Thank you. La justice papouasienne a refusé mardi de réapprovisionner en eau, en nourriture et en électricité le camp de réfugiés qui avait été mis en place par l'Australie sur son sol, mais qui vient d'être fermé, et où 600 réfugiés se sont barricadés. Le camp de l'île de Manus, dans le Pacifique, ouvert par l'Australie pour détenir et traiter les dossiers de demandeurs d'asile, a été officiellement fermé le mardi 31 octobre, ayant été jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais environ 600 hommes qui sont barricadés alors même que l'eau et l'électricité ont été coupées et que les vivres manquent. Les migrants ont été priés de se rendre dans 3 centres de transition, mais ils disent craindre pour leur sécurité alors que certains habitants se montrent hostiles à leur endroit, selon leurs défenseurs. La capitale indienne, New Delhi, était envahie hier par l'un de ces brouillards polluants qui lui valent sa sinistre réputation de mégapole parmi les plus polluées au monde. Depuis le réveil, les larges artères de la ville étaient voilées de gris. Les appartements ressemblaient à des fumoirs. Des petits commerçants de rue s'étaient noués un chiffon sur le visage, protection bien dérisoire. Des situations comme celle de New Delhi, agglomération d'une vingtaine de millions d'habitants, mettent en question la durabilité des modes de vie humains dans des zones aussi peuplées. Et ce, à l'heure où l'empreinte de l'homme sur la planète bleue est au cœur de la COP23 qui se déroule actuellement en Allemagne. La Russie a commémoré hier sans éclat les 100 ans de la révolution bolchevique d'octobre, séisme politique majeur du 20e siècle, le Kremlin craignant une glorification du changement de régime par la force. De son côté, le Parti communiste, qui reste le plus grand parti d'opposition au Parlement russe, a réuni des milliers de ses partisans pour un défilé au centre de Moscou, avec des drapeaux rouges, des portraits de Vladimir Lénine, Karl Marx et de Joseph Staline. L'islamologue et théologien suisse controversé Tariq Ramadan, dans la tourmente en raison d'accusations de viol en France et de violences sexuelles sur des mineurs en Suisse, ce qu'il nie, est en congé d'Oxford, a annoncé hier la prestigieuse Université britannique. D'un commun accord et avec effet média, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines, a pris un congé de l'Université d'Oxford, a indiqué la faculté. Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur de la confrérie égyptienne islamiste des frères musulmans et brillant orateur, est très populaire dans les milieux musulmans conservateurs. Il est aussi très contesté, notamment dans les sphères laïques qui voient en lui le tenant d'un islam politique. Il est visé par 2 plaintes pour viol en France, déposées dans la foulée de la vague de libération de la parole provoquée par l'éclatement de l'affaire Harvey Weinstein. Pour l'Université d'Oxford, une des plus célèbres du monde, le congé donné à M. Ramadan n'implique aucune présomption ou acceptation de culpabilité et permet au professeur Ramadan de répondre aux accusations extrêmes graves portées contre lui, qu'il nie catégoriquement tout en répondant à la principale préoccupation de l'établissement, répondre à la détresse accrue et compréhensible et mettre en priorité le bien-être de ses étudiants et du personnel, souligne le communiqué. L'université dit avoir toujours reconnu la gravité des allégations contre le professeur Ramadan, tout en soulignant l'importance de l'impartialité et des principes de justice et de procédures régulières. Les journaux régionaux, une chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil intitulée « L'homme magique, point de suspension, au conseil municipal ». Printemps 2012, David Philippe apprend que le cancer est revenu, qu'il lui reste un an, peut-être deux, max trois. Son gars a deux ans, sa fille quatre. Sachant son temps compté, il décide d'en faire quelque chose de magique. Ne me demandez pas comment il fait ça. Quand il va faire ses traitements à l'hôpital, il porte son nez de clown. À l'infirmière qui s'occupe de lui, il fait des tours de magie. À ses enfants, il fabrique des souvenirs. Pour après, quand ils n'en auront que ça. Quand ils n'auront que ça. La magie s'est retournée vers lui. Son oncologue lui a proposé in extremis un tout nouveau médicament, un traitement de la dernière chance. Le Xalkori, comme par un coup de baguette magique, a fait disparaître toutes les métastases qui s'étaient logées dans ses os, dans son cerveau. Pouf! Ça fait quatre ans. Le Xalkori, alors on l'écrit de deux façons. Le Xalkori tient encore le cancer au tapis et David en profite. Non seulement pour juste mordre dans la vie, mais pour continuer à faire le bien autour de lui, à faire une différence, à penser encore plus loin que son nez de clown. Dimanche, il a gagné ses élections avec 58 % des votes. J'avais pensé me présenter comme conseiller municipal il y a quatre ans, mais je ne me sentais pas certain d'en être capable. Je venais de commencer la médication, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Il y a trois ans, je me suis fait élire à la commission scolaire. David habite avec Maria. Pardon, David habite à Maria. Je me suis impliquée pour redonner. Je me suis dit qu'en ayant un petit pouvoir, je pourrais peut-être aider à changer les choses. On a une classe de plus cette année, c'est rare qu'on voit ça en Gaspésie. Il fait ça en plus de son travail à temps plein, dans une quincaillerie. Avec d'autres parents, il a ressuscité la Ligue de Balmol, morte depuis une quinzaine d'années. On pensait avoir 50 inscriptions pour notre premier été, on en a eu 100. L'idée était d'offrir une autre option que le soccer. C'est bien le fun, le soccer, mais il y a des enfants qui peuvent passer le match sans toucher au ballon. Pas à la balle molle, tout le monde a son tour au bâton. Et quand la balle va vers toi, tu as ta chance, je trouve ça important. Cette année, il a fait le saut en politique en briguant un des 6 postes de conseiller de la ville. Comme indépendant, il a délogé Patricia Chartier, qui a porté au provincial les couleurs de Québec solidaire dans Bonaventure. J'aurais pu choisir un siège plus facile. J'ai attendu à la dernière minute pour décider. Je me suis inscrit à minuit moins une, le vendredi pendant ma pause. Il fait ce qu'il n'aurait jamais pensé possible en 2012. Je m'engage pour 4 ans. Comme il le fait pour la commission scolaire, il laissera son nez de clown à la maison. C'est important de dissocier les deux, même si faire rire, ça peut être sérieux. Je n'aurai pas physiquement mon nez de clown, mais il est toujours là, en dedans. L'humour peut toujours être utile. Mais, prend-il le soin de préciser, je suis capable d'être sérieux. David a plein d'idées pour son coin de pays. Il aimerait bien que les touristes arrêtent de passer tout droit entre New Richmond et Migasha. Il faut qu'on trouve notre projet. Il y a un beau site, la maison Mowat. On pourrait peut-être y développer des jeux pour les enfants, quelque chose d'intergénérationnel. Ce ne sont que des idées, évidemment, qu'il pourra partager avec le maire Christian Leblanc et les autres conseillers. Je veux travailler en équipe. D'abord et avant tout, David, tout comme beaucoup d'élus municipaux, veut faire la démonstration que la politique peut changer les choses et de nos jours, ce n'est pas rien. Il aurait pu facilement s'apitoyer sur son sort et vivre de son assurance invalidité, mais il a décidé de se retrousser les manches. La politique, comme le reste, a bien besoin d'un peu de magie. a besoin de musique, c'est à la une du droit d'aujourd'hui, une chronique de Patrick Duquette. Pourquoi pas, après tout, depuis le temps qu'on dit que les bibliothèques doivent cesser d'être de simples entrepôts de livres, voilà qu'on pourrait désormais emprunter tout à fait gratuitement des instruments de musique à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Depuis mardi, Ottawa est la 6e ville canadienne à offrir le prêt d'instruments de musique dans certaines de ses bibliothèques, après Vancouver, Toronto, Calgary, Kitchener et Montréal. L'idée derrière le projet est de démocratiser la musique, de permettre à des enfants, des ados et même à des plus vieux de s'essayer un instrument qu'ils n'auraient pas autrement les moyens de se procurer. Après tout, tout le monde a besoin de musique dans sa vie, comme l'a si bien résumé Sarah McLachlan de passage à Ottawa pour le lancement de ce projet fort intéressant. La chanteuse canadienne qui a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde, en plus de remporter de nombreux prix Grammy et Juno, trouve formidable que des bibliothèques commencent à prêter des instruments de musique. La musique devrait être un moyen d'expression accessible à tout le monde. Dans les cas des enfants, c'est même indispensable, a insisté la chanteuse qui a elle-même lancé deux écoles de musique à Vancouver et Edmonton, à l'intention de jeunes et d'aînés démunis ou à risque. Il y a tellement d'études qui démontrent les effets bénéfiques de la musique sur les enfants, poursuit-elle. Les notes s'améliorent, tout comme le quotient intellectuel, l'habilité de communiquer, de concevoir le monde, sans compter la confiance en soi, même, sans compter la confiance en soi-même qu'elle peut procurer. Quand j'ai ouvert ma première école de musique à Vancouver, il y a 16 ans, nous avions des enfants qui rentraient la tête basse en se regardant le bout des orteils. Et j'ai vu ces enfants cheminer dans le programme, apprendre à maîtriser leurs instruments, écrire leurs propres chansons et réussir à l'école. Certains ont même poursuivi des études post-secondaires et obtenu des bourses, raconte-t-elle. La compagnie Sun Life a fait don des 150 premiers instruments à la Bibliothèque d'Ottawa, mais un appel à tous a été lancé. La population peut faire don d'instruments supplémentaires d'ici au 8 décembre. Pour l'instant, on a déjà un peu de tout. Guitare, banjo, mandoline, violon, clavier, tambour, djembé. Soyez prévenus, il n'y a pas de Stradivarius dans le lot. Ce sont des instruments de base pour s'initier, pour explorer. Le Centre sur le vieillissement devient un collaborateur de l'OMS. Isabelle Pion dans la tribune. Le Centre de recherche sur le vieillissement, CDRV, du CIU3S de l'Estrie CHUS, devient un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le CDRV entre ainsi dans les ligues majeures, illustre la professeure de l'Université de Sherbrooke, Suzanne Garon, également chercheuse au CDRV, en soulignant que l'OMS a le mandat d'établir les bonnes pratiques à travers le monde. Il s'agit d'une grande nouvelle pour le centre qui fêtera ses 30 ans en 2018. L'institution regroupe plus d'une cinquantaine de chercheurs. L'expertise développée au centre avec l'équipe de recherche Ville Amie des aînés et par la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées servira au plan d'action développé par l'OMS, a expliqué John Baird, directeur du département vieillissement et qualité de vie de l'OMS par vidéoconférence mardi matin. L'année dernière, les 194 États membres de l'OMS ont adopté la stratégie et un plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé. La stratégie appelle à des actions dans les domaines connus, mais souligne aussi des lacunes importantes au niveau des connaissances et des capacités dans d'autres domaines, a indiqué M. Baird, en expliquant qu'un plan de travail a été mis en place afin de préparer le monde à une décennie d'actions globales et conjointes, la décennie du vieillissement en bonne santé. ¶¶ Actualité culturelle, le second degré, c'est un texte de Marc Cassivi dans la presse d'aujourd'hui. Les voitures de police sont arrivées les unes après les autres, les gyrophares éclairant les alentours de la place des Arts. L'accès au boulevard de Maisonneuve a été bloqué par l'escouade anti-émeute sur le qui-vive. J'ai demandé à un des policiers se déplaçant en groupe ce qui se passait et je n'ai d'abord pas compris ce qu'il m'a répondu sous sa visière et son passe-montagne. « C'est une manif, une manifestation de l'autre bord », a-t-il répété. Un mur de policiers munis de boucliers guettait l'entrée principale de la place des Arts rue Sainte-Catherine. Tout ce dispositif de sécurité pour protéger Guy Nantel de lui-même, me suis-je demandé. Avec une collègue, je me suis rendue rue Jeanne-Mance pour voir de près ces manifestants portant des drapeaux rouges. Ils traînaient une grande banderole sur laquelle était inscrit le mot « socialisme ». « C'est une manif de communistes », a résumé un autre policier à ma collègue. Des gauchistes qui n'avaient rien à cirer de la première montréalaise du nouveau spectacle de Guy Nantel, « Nos droits et libertés », pour lequel l'humoriste a révélé hier matin avoir reçu des menaces de mort à Québec et pour lequel avait été prévu davantage de moyens de sécurité. « Quelle ironie », me suis-je dit. L'ironie, selon le Larousse, peut être entendue comme un contraste entre une réalité cruelle, décevante, et ce qui pouvait être attendu. C'est aussi, au sens premier du terme, une manière de railler en faisant entendre le contraire de ce que l'on dit. Voilà résumé, en une phrase du dictionnaire, l'écueil principal du nouveau spectacle de Guy Nantel. Depuis la controverse entourant la présentation de son spectacle à Québec la semaine dernière, Nantel se défend de faire des blagues douteuses, entre parenthèses notamment sur la culture du viol et sur l'agression sexuelle dont dit avoir été victime Alice Paquet, en se servant du paravent ô combien pratique du second degré. Certes, dans « Nos droits et libertés », un spectacle d'1h40 à la mécanique bien huilée, Guy Nantel force le trait, caricature, exagère, mais il donne assez rarement dans la pure ironie. L'essentiel de Nos droits et libertés, son cinquième one-man show, résume assez sommairement sa pensée en différentes matières, liberté religieuse, droit des minorités, liberté de parole, droit à l'autodétermination, etc. J'en sais quelque chose. J'ai discuté de ces sujets délicats le plus sérieusement du monde avec lui. Guy Nantel est un apôtre d'une conception républicaine de la société plus en phase avec le modèle français qu'avec le modèle canadien. Un chef d'État qui porterait un turban très peu pour lui. Aussi, la liberté de culte ne semble pas compter pour beaucoup dans sa conception de l'humanité. Les croyants, au mieux, semblent être des illuminés pour cet anti-religieux radical, tout sauf repentant, dont le personnage de scène est un gourou autoproclamé de la « mononquitude », entre guillemets bien sûr. Abraham, Jésus et Mahomet passent au tordeur de son humour moins subtil qu'il ne se plaît à le croire, du moins de mon point de vue d'athée, c'est ce qu'écrit Marc Cassivi. Pour lui, les religieux ont pris le contrôle et les blagues éculées sur l'avarice présumée des Juifs, ils sont business eux autres, entre parenthèses une citation de Guy Nantel, écrite par Cassivi, les curés pédophiles, entre parenthèses, laissez-moi venir dans les petits-enfants, et les vierges promises aux musulmans, entre parenthèses, je vous laisse imaginer les vannes sur les musulmans qui ne mangent pas d'oreilles de Christ, semblent tout à fait justifiables, pertinentes et à propos. Et moi qui croyais qu'on avait fait le tour des blagues de curés. Le public de Guy Nantel, qui ne demande qu'à rire de ses propres préjugés, en redemande. C'est à mon sens une autre limite de sa thèse du second degré. Rappelons pour mémoire que la semaine dernière, Alice Paquet s'est insurgée sur Facebook d'une blague qu'a faite Guy Nantel à son sujet sans la nommer, mais en la visant sans équivoque, et que l'humoriste s'en est défendu en prétextant le fameux second degré. Je me suis pourtant demandé s'il faisait de l'ironie hier lorsqu'il a de nouveau dit, en parlant d'Alice Paquet toujours, « Lâchez-moi ça, culture du viol. Là, on a appris que la fille aurait été prostituée avant ça. » Les féministes radicales disaient « culture du viol, ça n'a pas rapport dans l'histoire ». Mais en que ça a un rapport. Nantel a tenu à faire une mise au point sur Facebook hier matin. Il va de soi que ce numéro présenté dans mon spectacle vise justement à dénoncer le viol et toute forme de harcèlement. Comment dire? Ce n'est pas clair. Est-ce que Guy Nantel banalise la culture du viol? Je dirais qu'au premier, second ou 16e degré, ça ressemble assez à ça, oui. Son spectacle n'est pas centré d'esprit. Guy Nantel est un homme intelligent. Évidemment qu'il ne pense pas tout ce qu'il dit sur les femmes, mais la vérité, s'il la regardait en face, c'est que son personnage de scène n'est pas si souvent loin de lui, ni très loin du discours dit du gros bon sens que tiennent bien des chroniqueurs et animateurs de radio de droite. Sa défense de l'ironie a bon dos. Personne ne mérite de menaces de mort, bien entendu. Mais je me suis souvent demandé, en écoutant Nantel sur scène donnée dans la provocation facile, soufflant sur les braises avec enthousiasme, s'il n'était pas en train de se dieudonnéiser, parle ici de dieudonné, se camper en martyr de la liberté d'expression et en victime de la rectitude politique comme Mike Ward avant lui, pour mieux se vendre comme un humoriste qui n'a pas froid aux yeux. « Hostie d'époque », dit Nantel d'un ton de prédicateur maudissant la rectitude politique à propos de toutes les blagues que l'on ne peut plus faire en 2017. Quel est le message sous-jacent de ce spectacle qui se termine par un réquisitoire politique appelant les Québécois à se prendre en main, me suis-je demandé en fin de soirée? Essentiellement, ce que réclame Guy Nantel, c'est le droit inaliénable de faire des jokes de mon oncle. Si Louis-José Hood est l'équivalent de la chip ordinaire de l'humour, comme il le prétend, Nantel en est lui-même la chip au ketchup, une saveur qui était très populaire dans les années 70. Écrit Marc Cassivi. C'est tout pour les voix de service quotidien. Ici Hélène Denis, je vous souhaite une belle journée. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve dans quelques minutes si vous nous écoutez en direct à l'émission Les Paractualités.